point de vue accueille Philippe Sansonetti, microbiologiste, membre de l'Académie des sciences, professeur à l'Institut Pasteur et au Collège de France à Paris, pour nous donner son avis sur une nouvelle bactérie que l'on appelle bien rapidement bactérie indienne, une bactérie résistante à la plupart de nos antibiotiques, même les plus efficaces. Découverte en 2009 en Asie du Sud, elle pourrait être à même de se développer via la mondialisation des échanges et le tourisme médical. Philippe Sansonetti, bonjour.
Bonjour madame.
Merci d'être avec nous par téléphone. Est-ce que vous êtes surpris par l'arrivée d'une bactérie qui résiste aussi bien aux traitements, même les plus lourds ?
Non, c'est pas véritablement une surprise. On pense même, compte tenu de l'usage de plus en plus large des antibiotiques, en particulier dans les régions émergentes, qu'on va être amené à faire face de plus en plus, peut-être plus encore que jamais, à cette crise de multirésistance.
Alors je le disais en préambule de votre intervention, que le tourisme médical qui est en plein essor pourrait favoriser l'émergence d'une telle bactérie. Alors est-ce que l'on parle pour autant d'infection nosocomiale dans le cadre de cette bactérie ?
Oui, on peut parler d'infection nosocomiale dans la mesure où il est fort probable que ce sont des bactéries qui sont sélectionnées dans l'environnement hospitalier de ces zones, disons économiquement émergentes, où se fait ce qu'on appelle maintenant le tourisme médical. Mais enfin, disons que c'est un marqueur parmi d'autres de la globalisation et de la circulation de ces souches multirésistantes, éventuellement là, en l'occurrence, effectivement, d'un hôpital à un autre.
On parle d'une bactérie résistante, mais il s'agirait plus exactement d'un gène qui permet à une bactérie, parmi tant d'autres, de devenir très résistante à la plupart des antibiotiques. Le risque, c'est que ce gène pourrait se développer vers d'autres bactéries et développer de multirésistances.
Oui, bien sûr, il n'y a pas effectivement de processus de résistance sans gène derrière qui code ces mécanismes de résistance, car en fait ce sont très souvent des accumulations en fait de gènes qui codent en particulier pour des enzymes qui dégradent les antibiotiques. Et là cette souche justement, elle a la caractéristique d'avoir accumulé le Xème. En fait, je regardais très récemment, on en est probablement à quelque chose comme 1000 gènes différents codant pour des enzymes différentes, dégradant quasiment les possibilités de molécules qui sont de la famille des bêta-lactamines, c'est-à-dire des pénicillines au sens large. Donc ce gène, une fois qu'il est dans un micro-organisme, il a bien entendu la capacité de sauter à d'autres espèces bactériennes et à leur faire partager effectivement ce mécanisme de résistance. Ce qui est intéressant d'ailleurs quand on regarde le génome de ces micro-organismes, cette espèce de complexité de systèmes qui permettent l'intégration justement de gènes de résistance. La souche dont on parle, elle est aussi résistante à l'érythromycine, elle est aussi résistante au chloramphénicol, elle a par ailleurs une gène qui code pour une pompe, ce qu'on appelle des pompes, qui permettent d'évacuer quasiment tous les antibiotiques ou les substances toxiques pour la bactérie. C'est un peu des monstres, hein, quelque part, et ce qui est inquiétant, effectivement, c'est la capacité de transmission d'une espèce à l'autre.
Et des monstres que l'on aurait en partie créés, en tout cas favorisés, parce qu'on utilise à tort ou à travers les antibiotiques ?
Oui, c'est très largement lié au mauvais usage des antibiotiques. Alors, c'est quelque chose qu'on a pris en main il y a maintenant pas mal d'années dans les pays industrialisés, parce qu'on a connu une crise un peu similaire dans les années 80-90 avec quasiment l'impossibilité dans certains cas de traiter les micro-organismes du fait de leur multirésistance. Et c'est donc quelque chose qu'on va revoir après ce contrôle initial dans d'autres régions à cause justement, encore une fois, du mauvais usage, de la non-codification suffisante, de la trop grande liberté d'utilisation des antibiotiques. Alors on pourrait imaginer que les choses restent un petit peu cloisonnées là où elles apparaissent, mais avec la mondialisation, on peut difficilement y compter.
Est-ce que les chercheurs sont inquiets et le public doit-il s'inquiéter ?
Les chercheurs sont inquiets, c'est une façon de parler. Les chercheurs, ils voient effectivement à chaque fois arriver ces nouveaux gènes de résistance avec un certain degré de frayeur, dans la mesure où ce sont peu à peu des situations qui érodent le capital d'antibiotiques utilisables dans les infections, et parfois il reste vraiment pas grand-chose pour pouvoir traiter un malade. Donc on le veuille ou non, on est inquiet effectivement à chaque fois qu'un événement de cette nature survient. Je pense que c'est vraiment une situation où on a besoin d'être tous relativement conscients du phénomène, car tout le monde doit y jouer son rôle, si vous voulez, pas uniquement les médecins et les scientifiques, mais aussi les publics, en connaissant ou reconnaissant la complexité de la situation. La campagne, les antibiotiques, c'est pas automatique, elle a eu un impact, hein. On utilise moins les antibiotiques, on les utilise à meilleur escient. Le problème, c'est est-ce qu'on va pouvoir élargir ce genre d'attitude à l'ensemble de la planète, ça reste un peu une préoccupation quand même délicate.
Et aujourd'hui, alors, faut-il développer la recherche, j'imagine, en ce sens? Je crois qu'il faut à peu près une dizaine d'années pour créer de nouveaux antibiotiques, donc ça va prendre du temps.
Ben, ça prend du temps, oui, dans la mesure où c'est un peu comme les courses aux armements. On trouve un nouvel antibiotique, les bactéries ont cette capacité absolument phénoménale de trouver des mécanismes pour en contrecarrer les effets, soit comme je vous le disais, en les rejetant, soit éventuellement en les détruisant. Donc on est rentré un petit peu dans une course aux armements dont on n'est pas absolument certain qu'on soit toujours en position de la gagner. C'est quand même une charge énorme de demander au monde scientifique et au monde pharmaceutique d'aller faire la course derrière les bactéries. C'est pour ça que ça ne peut exister que s'il y a en même temps, à l'échelle en tout cas des pays qui peuvent le faire, mais si possible en aidant aussi ceux qui ne sont pas encore en position de le faire, un vrai contrôle global de l'utilisation des antibiotiques dans le monde vétérinaire et dans le monde médical.
Philippe Sansonetti, dernière question, un peu plus positive, je l'espère. À terme, et grâce à la recherche, est-ce que cette résistance pourrait être détournée pour permettre au corps humain de rejeter de possibles infections ?
C'est une des alternatives, si ça peut répondre à votre question, que considèrent de plus en plus les scientifiques et le monde de l'industrie pharmaceutique, c'est-à-dire d'essayer de trouver des alternatives ou des solutions alternatives à l'antibiotique stricto sensu, c'est-à-dire des moyens, par exemple, de stimuler les défenses de l'hôte de manière à résister aux microbes, à les empêcher d'être pathogènes, même s'ils sont toujours là, parce que les antibiotiques sont insuffisants, dans certains cas, à les détruire. Donc cette situation de crise, si l'on peut dire, va amener aussi peut-être un peu de créativité et à offrir des approches alternatives.
Eh bien merci Philippe Sansonetti, je rappelle que vous êtes microbiologiste, membre de l'Académie des sciences, professeur à l'Institut Pasteur et au Collège de France à Paris. Merci.
Je vous en prie, au revoir.